Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouvons cette semaine à nouveau pour la chronique verte de Benoît Guillard. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de me rendre à Tarbes. Plus exactement, je suis dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes-Pyrénées. Et j'ai l'honneur d'être aux côtés de son président, François-Xavier Brunet. Et si j'ai fait le choix d'aller à sa rencontre, c'est que au-delà de sa mission importante de président de la Chambre de commerce et d'industrie, il a aussi un métier. Et dans son métier, il est assureur. Et dans ses compétences et ses expertises, il a une compétence particulière sur le climat et les risques systémiques. Et puis enfin aussi, comme il est multicarte, j'ai aussi vu qu'il était président de l'OGEC, de l'Institut Jeanne d'Arc. Et donc on évoquera aussi ses engagements en tant que chrétien tout au long de sa carrière, sa riche carrière sur ce territoire. Cher Président, ou je ne sais pas comment vous appelez, cher François-Xavier Brunet, d'abord, merci d'avoir accepté de me rencontrer. Je vais vous laisser peut-être deux mots de présentation.
Oui, on va éviter la titulature qui n'est jamais souhaitable, et je ne suis vraiment pas bon pour le protocole. Donc, je suis président de la Chambre de commerce et d'industrie depuis 2010, agent général d'assurance depuis 2008, fin 2008, début 2009, et depuis trois ans, comme vous l'avez dit, président de l'OGEC de l'institution Jeanne d'Arc Saint-Joseph ici à Tarbes. Donc, beaucoup d'engagement, après avoir même eu près de 19 ans de vie municipale ici à Tarbes.
Cher Président, on va commencer par la CCI tout simplement et très rapidement, puisque la CCI elle a quand même pour mission importante d'accompagner les entreprises sur ce territoire. Et puisque dans cette chronique verte, on parle de transition écologique, j'imagine qu'il est mené des actions pour accompagner les entreprises dans ce domaine, j'imagine.
Oui, alors les chambres de commerce et d'industrie et celles-ci dans les Hautes-Pyrénées ne dérogent pas à la règle, ce sont des établissements publics de l'État, donc des structures publiques sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances, et avec les moyens qui nous sont donnés et avec ceux que nous pouvons compléter par nos ressources propres, nous devons exercer un certain nombre de missions qui sont des missions qui sont fixées par la loi et par le contrat avec l'État, en tant qu'opérateur de l'État. Et parmi ces missions, il y a l'accompagnement des entreprises dans les différentes transitions auxquelles elles sont confrontées, que ce soit sur le plan énergétique, sur le plan climatique, mais on pourrait aussi rajouter les transitions numériques, qui sont très fortes, les transitions sociales, les nouvelles formes de travail, etc. Donc par rapport au sujet de préoccupation et de prédilection de votre chronique, cher Benoît Guillard, les transitions environnementales, écologiques, énergétiques sont un des sujets sur lesquels nos collaboratrices et collaborateurs interviennent. On a notamment ici une collaboratrice qui est plus particulièrement chargée d'accompagner les entreprises sur un certain nombre de problématiques, parfois en lien avec d'autres opérateurs de l'État comme l'ADEME, et dans une coordination régionale avec l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie d'Occitanie.
Oui, donc bien évidemment que cette préoccupation est mise en avant. Ce qui va nous intéresser plus, c'est aussi votre expertise, puisque, on ne l'ignore pas, vous êtes aussi assureur et vous avez une compétence nationale, on va dire, même sur le climat et le risque systémique. Et donc c'est intéressant d'avoir aussi votre regard, justement, en tant qu'assureur, sur tout ce qui se joue par rapport à ces dérèglements climatiques et tout ce que subit notre planète actuellement et les risques que nous-mêmes, en tant qu'humains, nous devons assumer.
Oui, alors, une compétence nationale, non. Disons que pendant trois ans, j'ai siégé au titre des chambres de commerce et d'industrie au sein du Conseil économique, social et environnemental à Paris. Et au cours de ce mandat de trois ans, j'y suis resté trois ans, j'ai été le co-rapporteur d'un avis qui a été adopté par le CESE sur les conséquences des risques systémiques sur le système assurantiel français. Il est évident que mon métier, mon expérience d'agent général d'assurance en apporte la démonstration tous les jours, mais il suffit de regarder la télévision et d'écouter la radio, de lire les journaux pour mesurer combien certains événements climatiques qui paraissaient décennaux, centennaux ou que sais-je encore sont aujourd'hui quasi quotidiens ou quasi hebdomadaires. et que, comme disait le grand patron, l'ancien grand patron d'une grande compagnie d'assurance, on ne sait pas assurer un plus 4 degrés, un climat avec plus 4 degrés. Donc aujourd'hui, on est entre un plus 1,5 et plus 2 degrés. Donc on a des conséquences à la fois sur l'assurabilité des biens, l'assurabilité de certaines zones, et des conséquences également sur les tarifs d'assurance, puisque le poids proportionnel des catastrophes climatiques est de plus en plus fort dans la sinistralité des compagnies d'assurance. Et puis un certain nombre de choses qui se posent, notamment ces derniers jours en Bretagne, où on a pu voir qu'un certain nombre de lotissements, de zones d'activité, d'hypermarchés avaient été édifiés sur des zones qui s'avèrent être, ou dont on a fait semblant d'ignorer qu'elles étaient inondables. La question va se poser de la reconstruction à l'identique sur les mêmes zones. Je crois que on va avoir des mutations qui vont être très importantes. D'ailleurs, la plupart des assurés ont pu constater que leurs primes d'assurance ont augmenté au 1er janvier, tout simplement parce que, par exemple, sur les assurances d'habitation, le taux de la taxe catastrophe naturelle qui finance le fonds catastrophe naturelle est passé de 12 à 20%. Il faut bien financer le dispositif. Du reste, nous sommes en France un pays assez exemplaire et assez pilote en la matière, puisque depuis 1982, nous bénéficions d'un régime catastrophe naturelle qui est extrêmement efficace, mais qui atteint ses limites devant l'ampleur et la multiplicité des événements climatiques.
Tout à fait, avec votre regard, et on va se tourner un peu plus sur notre territoire, sur ce beau département des Hautes-Pyrénées. Quel est votre regard justement sur ces risques systémiques dans les Hautes-Pyrénées actuellement ?
Les Hautes-Pyrénées, j'allais dire, sont confrontés à des risques liés au changement climatique qui sont importants, notamment dans les zones de montagne avec l'érosion. On vient de le voir d'ailleurs dans la vallée de la Tarentaise chez nos collègues des Alpes, mais on sait par exemple que l'accès Gorge de Luz doit être sécurisé, donc bon, ça pose des questions de viabilité, d'accessibilité. On a dans le nord du département des zones qui sont très concernées par les sols argileux, et donc ce qu'on appelle alors la fissuration, les risques sécheresse, dit familièrement, mais qu'en techniquement on appelle le retrait-gonflement des argiles, c'est-à-dire que vous savez que l'argile a pour caractéristique physique de se dilater sous l'effet de la pluie et de se rétracter sous l'effet de la chaleur. Donc comme vous avez des distorsions, et donc ça vient attaquer les fondations des bâtiments, et donc le Val d'Adour est particulièrement concerné par ce risque.
Effectivement, tout le monde est concerné, en fait, et c'est une prise en compte globale qu'il s'agit de faire et de peut-être réimaginer à la fois l'habitat et puis les zones constructibles pour le futur, inévitablement.
Oui, et intégrer dans nos démarches la notion de prévention. Ça, c'est extrêmement important parce qu'on ne pourra pas éternellement financer un système d'indemnisation fondé exclusivement sur le curatif. Donc il va falloir aller vers des démarches de prévention qui permettront de maintenir le bâti, de maintenir les activités et d'amoindrir les conséquences sur nos concitoyens.
Cher François-Xavier, vous êtes aussi président de l'OGEC, de l'Institut bien connu à Tarbes, l'Institut Jeanne d'Arc. Donc peut-être expliquer à nos auditeurs très rapidement ce qu'est un OGEC, ce qu'est le rôle d'un président d'OGEC, et puis nous verser un petit peu votre regard, vous, sur justement l'enseignement catholique sur ce territoire, et sur Tarbes en particulier.
Moi, je suis natif des Hautes-Pyrénées. Je suis extrêmement attaché à l'enseignement catholique, puisque j'y ai usé mes fonds de culotte et même mes pantalons longs, puisque j'ai été tour à tour élève à l'école Saint-Joseph de Cantaos et au Collège et chez les Pères de Notre-Dame de Garaison. Et j'ai mes enfants qui ont été ou qui sont scolarisés à Jeanne d'Arc à Tarbes, puisque je vis depuis une trentaine d'années à Tarbes. L'enseignement catholique dans les Hautes-Pyrénées, mais comme ailleurs, est géré par ce qu'on appelle des OGEC, des organismes de gestion de l'enseignement catholique, qui sont des structures de nature associative et qui assurent, pour faire simple, le fonctionnement matériel et administratif des établissements. Ils le font soit sous l'égide d'une congrégation, si l'établissement est sous la tutelle d'une congrégation, soit directement sous la tutelle du diocèse et de l'évêque du diocèse, ce qui est le cas de Jeanne d'Arc Saint-Joseph, puisque nous n'avons pas de congrégation et que nous sommes un établissement diocésain, un établissement de 1200 élèves, qui va de la maternelle jusqu'à la terminale, qui est implantée sur deux sites, donc Jeanne d'Arc, rue Massé à Tarbes, et l'école Saint-Joseph, rue de Kronstadt, également à Tarbes, rue de Kronstadt, c'est juste en face du 1er RHP, du régiment du 1er RHP. Donc c'est un très bel établissement qui a une tradition, une notoriété ici à Tarbes, qui est un établissement extrêmement important. Et je crois que dans l'évolution de la société, dans le paysage éducatif, l'enseignement catholique a un rôle et un positionnement plus que jamais à tenir. Moi, quand je fais des réunions avec les ou à la rentrée avec les enseignants ou avec les parents d'élèves, je leur dis toujours, non, on n'est pas dans un établissement privé, on est dans un établissement d'enseignement catholique. Donc lorsque l'on choisit de confier ses enfants à l'établissement d'enseignement catholique, on choisit aussi d'adhérer à un système de valeurs. On est une école ouverte sur la vie et la société, donc on ne demande pas aux parents de faire un acte de foi et de signer un acte de foi, mais en tous les cas, on les invite à partager un système de valeurs qui sont les valeurs chrétiennes, qui sont des valeurs d'ouverture à la vie et au monde, mais qui sont des valeurs qui sont extrêmement fortes et que, ben, bénévolement, les membres de l'OGEC qui font partie de l'OGEC avec moi, essayons de faire vivre en apportant les efforts nécessaires pour faire tourner des établissements qui sont quand même avec des moyens, somme toute, limités, même si les parents versent une contribution, mais elle ne permet pas tout. Donc c'est un exercice d'équilibriste, mais un exercice passionnant.
Alors, puisqu'on en est là et qu'on va arriver vers la fin de cette chronique, j'avais envie de vous poser une question un peu plus personnelle, puisque vous êtes donc chrétien aussi, hein, bien sûr, et que vous êtes engagé à la fois dans la société civile et puis dans l'éducation, et à côté des enseignants et des enfants et des parents d'élèves. Et donc, un petit peu vous demander, en tant que chrétien engagé, vos espérances pour demain, notamment pour les jeunes en particulier.
Déjà, dans un premier temps, je dirais que je regrette que nous soyons arrivés dans un monde, cette année 2025, mais ça fait quelques années que cela dure, où les seuls qui n'osent pas s'affirmer comme tels, ce sont les chrétiens, et les catholiques en particulier, puisqu'il s'agit là, nous concernant, des catholiques. Je pense que ça n'est pas porter atteinte à la laïcité que de se revendiquer tel que l'on est. Je pense que d'ailleurs on est beaucoup plus tolérant à l'égard des autres quand on sait qu'on est soi-même, et en tous les cas qu'on ose l'affirmer. Donc moi, je sans pour autant faire du prosélytisme, je n'ai jamais dissimulé ma foi chrétienne et mon engagement en ce sens, même si je suis atteint par le phénomène de sécularisation et que, bon, je ne suis pas le paroissien le plus assidu à la messe dominicale, malheureusement, mais en tous les cas, j'ai ces convictions et cette foi chevillée au corps, et je pense qu'il faut la porter haut, et c'est aussi, me semble-t-il, sans faire abusivement de politique dans cette chronique, je crois que c'est aussi un enjeu de civilisation. Et nous ne pouvons pas comprendre le monde dans lequel nous vivons, la civilisation européenne et française en particulier, qui est au croisement des civilisations gréco-romaines et judéo-chrétiennes, si on ne s'affirme pas. On ne peut pas comprendre la musique classique, on ne peut pas comprendre l'opéra, on ne peut pas comprendre la peinture, on ne peut pas comprendre la littérature, on ne peut rien comprendre, on ne peut même pas comprendre l'urbanisme de nos villes et de nos villages, organisés autour de nos clochers. Donc il faut se revendiquer comme tel. Donc je suis heureux de le faire sur les ondes de Radio Présence. Du reste, lorsque j'étais étudiant à Sciences Po à Toulouse, j'étais à votre place, cher Benoît, de l'autre côté du micro. Donc vous me rappelez mes jeunes années. Quant à mes espérances à l'égard de la jeunesse, moi je suis très inquiet. On a parlé des risques climatiques. Moi je suis, j'allais dire, presque beaucoup plus inquiet à l'égard du risque de guerre. Je suis comme vous, certainement, peut-être, je dirais pas féru d'histoire parce que ça serait prétentieux, mais je suis amateur d'histoire. Et j'ai parfois l'impression de vivre au quotidien les lignes d'un chapitre qui pourrait, d'ici quelques décennies, s'appeler la montée à la guerre. Donc j'ai foi, certes en Dieu, mais également en l'homme. J'espère que tout ceci se calmera, s'apaisera. Mais moi, je suis très inquiet pour les générations qui viennent, de ce point de vue-là. L'autre espérance que j'ai, c'est qu'on réussisse à construire un modèle de société qui soit moins anxiogène. Moi, je suis l'heureux papa de deux enfants, un étudiant de 21 ans, une collégienne de 14 ans. Et je vois autour d'eux, alors Dieu merci, ils vont bien, mais en tous les cas, je le crois, Je vois quand même monter dans cette génération-là des problèmes de, sinon de santé mentale, en tous les cas d'équilibre et de confiance psychologique. Et ça m'inquiète beaucoup. Et la boucle, on va boucler la boucle de ma réponse, excusez-moi si elle est un peu longue, mais je crois nécessaire de revenir à, sinon la revendication, au moins l'affirmation de nos valeurs et de notre foi, parce que cette génération-là est en recherche de sens et de spiritualité, en recherche de valeurs. Et comme nous autres chrétiens, nous avons un peu démissionné, ils vont se réfugier vers d'autres horizons, et cela m'inquiète un petit peu, quand je parlais d'enjeux de civilisation.
Merci beaucoup, cher François-Xavier Brunet. Merci pour ce beau témoignage. Merci d'avoir m'avoir accueilli et donc d'avoir accepté de vous adresser aussi aux auditeurs de Radio Présence. Et puis merci pour votre engagement et votre témoignage de chrétien. Et puis donc, au plaisir de vous retrouver. Au revoir.
Avec plaisir, au revoir.